Culture.
Expo.
Cinéma.
Théâtre.
Livre.
Transversal.
Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission de Transversal, que je me charge aujourd'hui de faire vivre avec une chronique ponctuelle, chronique qui prolonge la dernière émission de théâtre, puisque je parlerai aujourd'hui de l'acteur et du sportif. Alors voilà, l'acteur et le sportif, ce sont donc deux types de personnes qui ne font pas du tout, à première vue, le même métier. Ça, c'est entendu. Ils n'ont pas le même statut, ni le même rôle. Et on ne leur demande pas, a priori, la même chose. Mais le support de leur métier et leur outil de travail, c'est le même. C'est-à-dire, c'est leur corps. Et c'est par là que je voudrais entrer dans l'affaire et tenter de pousser la comparaison. Alors je vais, pour commencer, vous rappeler, vous remettre à l'oreille une expression courante, qui est celle-ci. On dit de quelqu'un qui va bien, de quelqu'un d'épanoui, de quelqu'un de joyeux, qu'il est bien dans ses baskets ou bien dans ses pompes. Alors les expressions courantes ou les habitudes de langage sont toujours très intéressantes, dans la mesure où elles finissent par glisser à l'oreille, dans la mesure où la force de l'habitude les rend anecdotiques, on finit par ne plus les remarquer, ne plus se pencher sur elles. Ou alors on les remarque et on s'en satisfait, on les apprécie par goût de l'original, par attrait pour ce qui fait couleur locale. En réalité, les expressions, heureusement, ne sont pas uniquement de petits colifichets de langage, de petits objets décoratifs. Dans la mesure où elles sont des formules et qu'elles possèdent donc cette caractéristique un peu cristallisante, eh bien, elles contiennent et rassemblent souvent de petites vérités pertinentes. Et voilà, être bien dans ses pompes, je crois, nous dit quelque chose de bien précis, en le disant à demi-voix. Il est curieux que soit utilisé pour figurer et traduire un état intérieur, une partie du corps qui n'a rien à voir avec le cœur ou même l'esprit. On parle de pieds, pas de tête ni de poitrine. Ce sont normalement ces endroits-là du corps dans lesquels on loge par image notre vie intérieure. Mais non, là, ce sont les pieds. Comme si la tenue, la position de tout le corps, garantie parce qu'il la tient debout, ses pieds, permettait d'assurer et de perpétuer un état intérieur, c'est-à-dire mental, moral ou sentimental. Alors à ce moment-là, on ne sait pas encore si c'est l'esprit qui contamine le corps ou l'inverse, et on ne sait pas ce qui agit en premier. On se doute bien que la relation est réciproque, et on perçoit, on pourrait dire déjà, la poule et l'œuf dans l'histoire. Ce qui est au moins sûr, c'est que être bien dans ses baskets, c'est plus qu'une simple image. Il y a une vraie correspondance, une vraie contamination. Et puis quand on représente quelqu'un de déprimé, on le représente classiquement courbé. Ce n'est pas que son corps est à l'image de sa disposition mentale, c'est plus que ça, je dirais. C'est que le sentiment a un vrai point dans le corps et dispose, au sens très physique du mot, le corps. Et inversement, un corps qui se force et se dispose, se met dans les conditions propices à susciter tel ou tel sentiment. L'expérience est assez connue, comme ça, de ces rires forcés en groupe qui provoquent un véritable sentiment d'allégresse et de joie, sentiment qui, à son tour, provoque un rire authentique. Alors voilà, corps et état intérieur correspondent. Et pour vous en persuader encore, je vais lire un passage de texte, un texte d'Antonin Artaud qui s'appelle « Un athlétisme affectif », qui est situé vers la fin du recueil « Le théâtre et son double ». Ce passage, c'est l'ouverture de ce texte « Un athlétisme affectif ». Il faut admettre pour l'acteur une sorte de musculature affective qui correspond à des localisations physiques des sentiments. Il en est de l'acteur comme d'un véritable athlète physique. Mais avec ce correctif surprenant qu'à l'organisme de l'athlète correspond un organisme affectif analogue et qui est parallèle à l'autre, qui est comme le double de l'autre, bien qu'il n'agisse pas sur le même plan. L'acteur est un athlète du cœur. Pour lui aussi intervient cette division de l'homme total en trois mondes et la sphère affective lui appartient en propre. Elle lui appartient organiquement. Les mouvements musculaires de l'effort sont comme l'effigie d'un autre effort en double, et qui, dans les mouvements du jeu dramatique, se localisent sur les mêmes points. Là où l'athlète s'appuie pour courir, c'est là que l'acteur s'appuie pour lancer une imprécation spasmodique, mais dont la course est rejetée vers l'intérieur. C'est pour cette raison, donc, que je disais tout à l'heure que acteurs comme sportifs ont pour support leur corps. Ils ne s'en servent pas pour faire la même chose, mais leur corps est néanmoins ce dont ils partent, ce grâce à quoi ils se lancent et durent. Pour revenir justement plus précisément sur le parallèle entre acteurs et sportifs, il faut regarder un peu la façon dont on parle et de leur capacité de maîtrise, d'exécution. Voilà, tous les théoriciens du jeu de l'acteur insistent sur une chose, essentielle à leurs yeux, qui est celle-ci, la valeur du travail, de l'expérience, souvent comme ça de l'engagement forcené dans le perfectionnement. Être acteur, donc, ça s'éprouve, ça s'apprend, Et le talent est bien souvent soit une illusion, soit, dira-t-on, un coup de chance ponctuel chez quelqu'un. De la même manière, le sportif apprend, il s'exerce. Comme l'acteur, pour être le meilleur, il lui faut deux choses, du travail et de l'expérience. Bon, jusqu'ici, ceci dit et accepté, on n'avance pas beaucoup. Il faut travailler partout, c'est à ce prix qu'on devient bon. Il faut s'exercer. Pourquoi alors ce parallèle entre acteur et sportif ? C'est que chez les deux, malgré cette importance justement du travail et de l'exercice, là encore, importance donc de la maîtrise technique, on parle toujours, malgré tout, à un moment, au moment de la performance, de magie. On ne peut pas s'empêcher à un moment de faire face à ce phénomène. C'est-à-dire qu'arrive toujours cet instant dans la performance, sportive ou théâtrale, où l'on s'émerveille que tout ceci puisse se faire avec tant de facilité et tant de grâce. Que tout ceci marche si bien. On parle souvent d'une équipe transcendée ou d'un acteur transcendé, voilà. Il y a donc des moments où la technique ne suffit plus à expliquer la performance et la qualité de celle-ci. Quand on juge d'un sportif et d'un acteur, on hésite entre deux regards, donc le premier raisonnable et quasi scientifique, je dirais, et le second est magique. Et dans ces moments de magie, où est passée alors la technique pourtant si essentielle à l'acteur autant qu'au sportif ? Qu'est-elle devenue ? Pour essayer de comprendre ça, je vais partir d'un texte de Kleist, que vous connaissez sans doute, sur le théâtre de marionnettes. Kleist met en scène un narrateur qui s'entretient avec un danseur, qui lui vante les qualités de la marionnette. Il soutient donc ce danseur que celle-ci est d'une grâce infaillible et supérieure à n'importe quel danseur humain parce qu'elle est privée de conscience. Autrement dit, la marionnette ne pense pas, elle s'exécute simplement, précisément suivant celui qui la manipule, le machiniste. La marionnette est donc un corps privé de conscience. Kleist en tire la conclusion que plus la réflexion s'active, plus la raison se met en marche, plus l'esprit travaille, alors plus le corps s'en pèse et s'en mêle. Ça, c'est une idée qui se retrouve dans plusieurs autres modalités de l'activité humaine. L'idée est celle-ci, qu'à trop penser, eh ben, parfois on échoue. Mais je voudrais lire la conclusion de ce texte surtout, qui touche exactement, à mon avis, ce que je voudrais décrire chez l'acteur comme chez le sportif. Voici la conclusion que Kleist fait. Mais tout comme l'intersection de deux lignes situées du même côté d'un point se retrouve soudain de l'autre côté, après avoir parcouru l'infini, ou bien comme l'image dans un miroir concave se retrouve après s'être éloignée à l'infini juste devant nous, de la même façon, c'est lorsque la connaissance a pour ainsi dire parcouru un infini que la grâce est retrouvée. De sorte qu'elle apparaît simultanément et de la façon la plus pure dans la constitution d'un corps humain ne possédant aucune conscience, ou bien alors une conscience infinie, c'est-à-dire le pantin articulé ou le dieu. On comprend mieux ce que la technique signifie ici. Tout ce que l'acteur et le sportif avaient appris de l'utilisation de leur corps, ils ont réussi à le mettre de côté pour le temps de la performance. Alors ici, il faut faire attention, ça ne signifie pas qu'ils ont oublié cette technique, hein, qu'ils l'ont abandonnée, qu'elle ne sert plus. Non, rien de tout ça. Ce serait une grave erreur de dire qu'elle n'est plus là. Alors voilà, c'est là que ça devient intéressant. La technique est là, mais elle est oubliée. Comment et pourquoi ? Parce que, et c'est ça qui fait que l'acteur et le sportif se ressemblent, c'est ça qui fait qu'ils ont un corps à l'utilisation similaire, parce que notre corps se souvient. Notre corps se souvient, je veux dire, que notre corps apprend et mémorise. Une phrase des Pensées de Pascal, je suis désolé, sortie un peu de son contexte, c'est sans doute un peu malhonnête, mais enfin elle illustre l'idée, une phrase des Pensées de Pascal dit « la loi plie les corps ». C'est-à-dire qu'à force de travailler et d'être travaillé, le corps porte une marque, il se dispose automatiquement, naturellement, ainsi qu'il l'a appris. Le corps donc s'imprime, et plutôt même quelque chose s'imprime en lui, et le rend autonome. Ce qui signifie que la pensée n'a plus besoin de forcer la technique pour que celle-ci s'applique au corps et l'aide à se mouvoir. Le corps, on pourrait dire, peut vivre tout seul. Et quand chez Pascal, dans le cadre d'une réflexion politique, c'était la force de l'habitude et la durée qui rendait le corps docile, et par là inerte, chez l'acteur et chez le sportif, c'est l'exercice du mouvement technique qui rend le corps vivant. Une fois que la technique est apprise et pour ainsi dire digérée, une fois qu'elle est imposée au corps, qu'elle l'a marquée donc, elle ne s'oublie pas, le corps s'en souvient. Et alors on pourrait dire, par goût du paradoxe comme ça, que c'est parce que le corps n'oublie pas la technique que l'esprit lui peut l'oublier. Pour dire aussi que quand on dit en théâtre « laisser parler son corps » chez un acteur, ça ne signifie pas faire n'importe quoi, ça ne signifie pas surprendre, crier, sauter. C'est simplement réussir à arriver à ce point de maîtrise où la maîtrise est justement quelque chose dont on a cessé d'avoir idée. Voilà, la grâce ce n'est donc pas que l'acteur quitte la pensée, c'est simplement qu'il délègue à son corps la charge de la susciter, cette pensée, de susciter par exemple un sentiment. Le corps de l'acteur est libéré d'un esprit qui à l'ordinaire l'encombre et le contraint, comme le soulignait Kleist dans ce texte sur le théâtre de marionnettes. Pour l'acteur, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que pour toucher et faire naître le sentiment, il ne faut pas directement le convoquer. Pour être effectivement triste, il ne faut pas se dire « ex nihilo, je suis triste » et donc je deviens triste. Non, pas du tout. Il faut se disposer à être triste. Et je dirais même plutôt qu'une disposition, et pour insister sur l'aspect physique du processus, qu'il s'agit d'une position, position du corps presque. Comme le dit Artaud dans « Un athlétisme affectif », c'est le corps qui lance et meut le sentiment intérieur. Celui-ci naît à partir de là. Artaud écrit donc « Toute émotion a des bases organiques. C'est en cultivant son émotion dans son corps que l'acteur en recharge la densité voltaïque. Savoir par avance les points du corps qu'il faut toucher, c'est jeter le spectateur dans les transes magiques. Et c'est de cette sorte précieuse de science que la poésie au théâtre s'est depuis longtemps déshabituée. » Et donc se disposer, se positionner, ce n'est pas convoquer un sentiment, c'est seulement créer les conditions pour que sa localisation interne ressorte. Et le public sent cette projection vers l'extérieur. L'acteur, comme le sportif, se sert donc en définitive de son corps comme d'un support où s'imprime, se trace et se marque des souvenirs de mouvement. Mais comment réussir alors, au moment de la performance, à ne laisser parler que son corps et à se débarrasser d'un esprit dont on a vu avec Kleist qu'il était bien souvent encombrant ? Alors pour répondre à cette question, je voudrais me servir de ce que Declan Donnellan, grand metteur en scène contemporain, appelle la cible. Voici ce qu'il en dit donc dans L'acteur et la cible. Je vais lire une partie de ce texte. C'est un peu long, mais ce sera très utile. Voici ce qu'il écrit. Vous ne pouvez pas savoir ce que vous faites tant que vous ne savez pas d'abord ce pourquoi vous le faites. L'acteur ne fait rien sans objectif. L'acteur ne peut rien faire sans cible. La cible peut être réelle ou imaginaire, concrète ou abstraite, mais la première règle inébranlable, c'est que dans toutes les occasions et sans aucune exception, il doit y avoir une cible. J'impressionne Juliette. Je préviens Roméo. Je trompe Lady Capulet. Je taquine la nourrice. J'ouvre la fenêtre. Je vais sur le balcon. Je cherche la lune. Je me souviens de ma famille. Il peut s'agir de vous-même, comme dans « Je me rassure ». L'acteur ne peut rien faire sans cible. Ainsi, par exemple, un acteur ne peut jouer « Je meurs » parce qu'il n'y a pas de cible. Cependant, l'acteur peut jouer « J'accueille la mort »,« Je combats la mort »,« Je me moque de la mort »,« Je me bats pour vivre ». Tout ce qu'un acteur peut jouer, ce sont des verbes. Et pour être encore plus précis, chacun de ces verbes doit être suivi d'une cible. Cette cible est une sorte d'objet, direct ou indirect, une chose spécifique vue ou ressentie qui répond en quelque sorte à un besoin. Pourquoi Declan Donnellan parle-t-il ainsi d'une cible ? Qu'est-ce qu'une cible ? Une cible, c'est différent d'un objectif. Un objectif, c'est ce qui s'atteint au terme d'un cheminement. Une cible, au contraire, ça se vise et ça concentre notre attention. On va droit vers elle. Donc il y a deux modalités d'atteindre, l'objectif et la cible. Pour l'objectif, il s'agit d'un chemin. Pour la cible, il s'agit d'une trajectoire, vraiment. Alors chez l'acteur comme chez le sportif, il y a effectivement une cible. C'est-à-dire quelque chose sur lequel l'attention se fixe exclusivement et presque de façon un peu rageuse. Une cible, c'est ce qui nous invite à être tendu, concentré vers un point unique, au point de faire le vide autour, d'oublier le reste. Et ici, puisqu'on parle du sportif, le mot de cible peut porter à confusion. Il ne s'agit pas pour le sportif du panier de basket, du but de football ou du visage du boxeur adverse. En tout cas, pas en tant que cible matérielle. La cible, comme l'a décrit Declan Donnellan, est mentale. Et comme elle est mentale, l'attention se concentre sur cette cible et les mouvements, et c'est là que précisément l'acteur et le sportif se ressemblent, les mouvements alors, une fois que la cible est vue, les mouvements viennent tout seuls. La cible chez le sportif, ce n'est pas se concentrer sur les mouvements, au sens où, par exemple, on dirait qu'un élève se concentre. C'est plutôt réussir à concentrer, à comprimer tous ces mouvements dans le canal qui est le chemin direct vers la cible. Je ne veux pas parler donc de la concentration au sens où on entend habituellement. Il ne s'agit pas d'une concentration intellectuelle, une concentration de la réflexion. Il s'agit d'un ramassement et d'une concentration de l'espace mental tournée vers un seul point. C'est une concentration au sens quasi chimique. Et avec une telle concentration sur la cible, Comme je disais tout à l'heure, les mouvements viennent tout seuls. Et pour illustrer cette idée, je vous invite à faire une expérience très simple, qui est celle-ci. Faites un bras de fer contre quelqu'un qui est à peu près votre égal en termes de force. Alors, d'abord, si vous pensez à votre muscle, et si votre esprit tente d'insuffler de la force à votre muscle, si c'est sur ce muscle que votre esprit se concentre, vous perdrez en force. Mais si, en revanche, vous concentrez votre attention sur ce simple fait, cette simple cible qui se résume à ceci, à cette parole, le dos de sa main arrive à toucher la table, alors votre force augmentera naturellement. Et vous verrez que c'est une expérience tout à fait surprenante. Sans doute que certains d'entre vous l'ont déjà vécu, mais vraiment cette expérience illustre cette concentration, qui n'est pas de la pesanteur, c'est simplement cette concentration, une fixation unique et précise de la pensée sur un point, une pensée comme ça focalisée et localisée. Et c'est cela la concentration de l'acteur comme du sportif, c'est l'attention mentale portée et consacrée exclusivement à une cible. Alors, une fois que cette attention est suscitée et tenue, alors le chemin se trace et est franchi tout seul. Artaud, dans Un athlétisme affectif, parlait de projection. Et c'est exactement de ça dont il s'agit. L'esprit projette et le corps se charge du reste, d'assurer la direction vers la cible. Le corps laisse parler une technique oubliée. Que l'on pense par exemple à un moment où on se remet à faire un geste de sportif qu'on a oublié. Le geste petit à petit revient tout seul et notre corps réapprend. Et ensuite nous pouvons nous débarrasser de la pensée qui au début cherchait à retrouver le geste. Par exemple, on n'oublie jamais comment on fait du vélo. Une fois qu'on a appris à faire du vélo, le corps ne peut pas oublier ce que c'est que faire du vélo. Pour illustrer un peu cette idée de cible, je voudrais citer un autre texte de Kleist qui peut nous aider à mieux comprendre ce que c'est que la cible. Dans ce texte, Kleist écrit que l'idée vient en parlant. Alors ici, l'idée, c'est la cible. Quoique confusément perçue, on a une intuition, par exemple, mais l'idée encore est obscure. Alors pour la clarifier, c'est-à-dire pour l'atteindre, il ne sert à rien de chercher ces mots, de se forcer à trouver la meilleure formulation. Il ne faut pas plonger dans le langage et chercher dans le langage, puisque plus on cherche et plus l'idée s'en mêle, dit Kleist. Et plus on pense aux moyens par lesquels la cible sera atteinte, c'est-à-dire plus on pense aux moyens par lesquels l'idée pourra être formulée, et plus on se coupe de son accès. Il faut, soutient Kleist, se projeter vers l'idée sans plus de façon, comme ça. C'est-à-dire se mettre à parler sans réfléchir. Prendre le chemin sans penser à la façon dont celui-ci se dessine. Voilà, c'est exactement cette activité têtue de l'atteinte qui mobilise et tend les facultés, sans que celle-ci ait besoin, comme ça, d'être appelée à la rescousse. Alors voilà, l'acteur comme le sportif parviennent à faire de leur corps un support qui se souvient, et qui se souvient de façon autonome. Je dis ça pour bien souligner qu'au moment de la performance, si la pensée s'attarde trop sur le mouvement et les moyens par lesquels il sera bien réalisé, eh bien elle encombre plus qu'elle n'aide. Tirer un coup franc, par exemple, au football ou une pénalité au rugby sont des moments de temps mort dans le jeu, où, parce que le mouvement du jeu s'est suspendu, les joueurs ne sont plus tête baissée à l'action, à leur jeu dans l'instant, eh bien l'esprit revient plus volontiers et risque de contaminer le corps. Les tireurs doivent, et c'est très difficile, ils doivent ne surtout pas penser, ne surtout pas appliquer la pensée sur la technicité du geste qu'ils vont réaliser. Si les tireurs pensent « je dois faire en sorte que mon pied aborde ainsi le ballon » ou s'ils pensent « ma jambe doit être ainsi courbée », ils ratent immanquablement. Mais s'il se dit « je mets la balle ici » et se concentre sur la réalisation de cet acte, eh bien, ce regard au moment de la pénalité, par exemple, ce regard au moment du coup franc, est une longue fixation de la cible. Et par exemple, il suffit d'observer les tireurs de pénalité au rugby, les numéros 10 ou les numéros 9 par exemple, pour se rendre compte que leur regard se fixe très longuement, comme ça, sur l'en-but. Et c'est cela que la cible... Je ne veux pas dire que la cible est l'en-but, mais la cible est cette proposition mentale que se dit le tireur, que se propose le tireur, que s'inflige le tireur, qui est « je mets le ballon ici ». Et alors, une fois que l'attention est concentrée sur cette proposition mentale, le pied agit naturellement. Et c'est pour ça qu'acteurs et sportifs sont semblables. C'est dans cet oubli d'une technique parfaite, au moment de la performance, au moyen de cette concentration sur la cible, comme l'appelle Declan Donnellan. Voilà, j'en ai maintenant fini avec le sportif, l'acteur, et je termine simplement en vous rappelant que se joue, ce soir et demain, donc mercredi 25 et jeudi 26 janvier, en Cantor, Acropolis, pièce de Vispianski, mise en scène par Aurélie de Foresta, pièce très animée, avec de la musique, 20 acteurs, et je vous invite vivement à aller voir cette pièce. À bientôt.